Voici les deux textes liturgiques pour ce 11e dimanche après la Pentecôte. L'épître est tirée de saint Paul aux Corinthiens, 1er aux Corinthiens, chapitre 15. Je vous rappelle, mes frères, l'évangile que je vous ai prêché, que vous avez reçu, dans lequel vous persévérez, par lequel vous serez sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai prêché. À moins que vous n'ayez cru en vain, car je vous ai transmis avant tout ce que j'ai moi-même reçu, à savoir que le Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures, qu'il est apparu à Céphas puis aux onze. Il est apparu ensuite à plus de 500 frères à la fois, dont beaucoup vivent encore aujourd'hui et dont quelques-uns sont morts. Il est apparu ensuite à Jacques puis à tous les apôtres et finalement comme au dernier de tous et à l'avorton. Il m'est apparu aussi à moi, car moi je suis le moindre des apôtres et je ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Et c'est par la grâce de Dieu que je suis ce que je suis, et sa grâce en moi n'a pas été stérile. On se lève pour l'Évangile. Continuation du Saint-Évangile selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus, quittant le pays de Tyr, vint par Sidon vers la mer de Galilée en traversant le pays de la Décapole. On lui amena un homme sourd et muet, on lui suppliait de lui imposer les mains. Alors Jésus, le tirant à l'écart de la foule, mit ses doigts dans les oreilles de cet homme, et prenant de la salive, il lui toucha la langue. Puis levant les yeux au ciel, il jeta un soupir et lui dit « Ephphatha », c'est-à-dire « Ouvrez-vous ». Et aussitôt ses oreilles s'ouvrirent et sa langue se délia, il parlait distinctement. Jésus leur défendit de le dire à personne, mais plus il le leur défendait, plus il le publiait, et plus ils étaient saisis d'admiration, disant « Il a bien fait toutes choses, il a fait entendre les sourds et parler les muets. » Veuillez vous asseoir. Cette semaine, messe tous les jours à 10h, mais pas que demain, c'est une grande fête de la Sainte Vierge, c'est l'octave de la fête de l'Assomption. C'est le pape Pie XII qui a voulu que cette octave devienne la fête du cœur immaculé de Marie. Donc, priez bien la Sainte Vierge demain. Rappelez-vous que le site Dame Marie est maintenant, le nouveau site est opérationnel, donc dame-marie.net. Hein. Vous pouvez aussi, si vous avez un petit peu de temps cette semaine, aller sur la page d'accueil. Donc, il y a un petit rectangle en bas où vous pouvez apprendre à chanter, entre autres à chanter l'aspergès. Hein. Mieux pour le kyrie, mais l'aspergé, c'est pas encore tout à fait ça. Hein. Donc, n'hésitez pas, pendant la semaine, vous avez 10 minutes, vous cliquez pour entendre le chant. En même temps, vous avez la partition en chant grégorien qui apparaît pour que vous puissiez apprendre ces chants. Ce n'est pas ce que disait saint Augustin, quelqu'un qui chante dans la messe, prie deux fois. Donc, n'hésitez pas aussi à en parler un petit peu autour de vous pour augmenter le référencement du site, pour que le bien puisse se faire au niveau des âmes. N'hésitez pas aussi, je vous l'ai peut-être déjà dit, si vous avez des suggestions. Hein, parfois, les gens nous donnent des bonnes idées pour corriger des petites erreurs ou arranger un petit peu le site pour que ça se fasse de mieux en mieux. Eh bien, n'hésitez pas à me passer un coup de téléphone. Hein, quelqu'un m'avait fait une remarque aussi sur le fait qu'ils auraient voulu pouvoir télécharger en MP3 les différents audios. Ça y est, c'est fait. Donc maintenant, vous pouvez aussi télécharger en MP3 pour ceux qui écoutent les conférences dans la voiture. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, mes bien chers amis, je voudrais utiliser les derniers textes liturgiques et les textes d'aujourd'hui pour nous aider à comprendre la nécessité que nous sommes tous de monter vers le bon Dieu. Je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, on ne monte pas vers Dieu d'un seul coup. Il y a des étapes. Rappelez-vous ce que je vous ai souvent expliqué, il y a trois étapes principales. La vie purgative, la vie illuminative, la vie unitive. D'abord la vie purgative, c'est la vie de purification. On ne peut pas monter vers le bon Dieu sans se purifier d'abord de sa volonté propre. La volonté propre, si vous voulez, c'est comme une chaîne qui nous maintient vers cette terre. Donc il faut couper la volonté propre pour pouvoir s'élever. Donc il y a d'abord une partie de purification qui est pénible, mais il faut passer par là. Puis deuxième partie, on peut recevoir les lumières du Saint-Esprit. Une fois qu'on s'est libéré de ses volontés propres, on peut écouter la volonté du bon Dieu. Donc on passe en voie illuminative. Et enfin, Plus on monte, plus on se rapproche du bon Dieu, on peut passer en voie unitive, c'est la voie mystique. Et on peut très bien utiliser ces derniers textes liturgiques en rajoutant les textes d'une très belle fête qui est, bon, j'ai pas le temps de vous parler parce que elle arrivait juste avant la fête de l'Assomption. J'ai préféré vous parler de l'Assomption, mais il y a aussi la fête de la Transfiguration au 6 août. La première étape, c'est l'étape de vie purgative. Rappelez-vous, c'est l'évangile de dimanche dernier. Dimanche dernier, c'était l'évangile du publicain et du pharisien. Les deux arrivent au temple, vous connaissez cette histoire ? Une parabole de notre Seigneur, les deux arrivent au temple pour adorer, le pharisien plein de lui-même. Il se félicite de tout ce qu'il a fait. Il a fait beaucoup de pénitence, il a fait beaucoup d'aumônes, il a fait des tas de choses. Mais il est plein d'orgueil. Et il quitte le temple, il n'est pas pardonné. Au contraire, il y a un publicain qui arrive, qui est méprisé par tous les juifs parce qu'il est d'une secte inférieure, d'une classe inférieure, pardon, et il n'ose même pas rentrer dans le temple. Il regarde vers l'autel et il dit simplement « Seigneur, pardonnez-moi parce que je suis un pécheur. » Et bon Dieu explique que le premier n'est pas pardonné, mais que le publicain est pardonné. Pour nous faire comprendre quoi? Pour nous faire comprendre que la clé de toute la sanctification, de toute la vie spirituelle, c'est la vertu d'humilité. Ce qu'on voit aujourd'hui, tout le modernisme, c'est quoi? C'est de l'orgueil, c'est tout. Rappelez-vous Saint Pédis qui explique bien dans sa grande encyclique Pascendi de 1907, eh bien que le départ, si vous voulez, l'origine de toutes ces idées condamnées par l'Église du modernisme, c'est d'abord l'orgueil. Et donc il faut l'humilité. L'humilité, c'est comme le terreau sur lequel on peut planter, dans lequel on peut planter les plantes. S'il n'y a pas de terreau, la plante ne pousse pas. Donc il faut d'abord le terreau de l'humilité. Et sur ce terreau de l'humilité, on peut construire la vie spirituelle. La vie spirituelle, c'est quoi? La vie spirituelle, c'est tout simplement l'association dans notre âme d'un certain nombre de vertus essentielles. Donc, si on rajoute la vertu d'humilité, qui est la fondation de base, si vous voulez, le terrain sur lequel on veut construire la maison, il y a 10 vertus principales. Je vous en ai souvent parlé, il faut bien comprendre ces choses-là. Personne ne peut se sauver sans la pratique de ces 10 vertus. D'abord, les vertus théologales. Les vertus théologales, c'est les vertus qui ont Dieu pour objet. Théos, en latin, ça veut dire, en grec plutôt, ça veut dire Dieu. Donc, les vertus théologales, c'est les vertus qui ont Dieu pour objet. Donc, on peut augmenter constamment les vertus théologales. On ne peut jamais avoir trop de foi, trop d'espérance, trop de charité. Donc, on commence par la foi pour croire, l'espérance pour prier et la charité pour suivre la loi du bon Dieu. Donc, il y a d'abord les fondations sur l'humilité, la foi, l'espérance et la charité. Mais s'il n'y a pas l'humilité sous la foi, l'espérance et la charité, la foi, l'espérance et la charité ne vont pas durer. Une fois qu'on a monté, si vous voulez, cette fondation de la foi, d'espérance et de charité, on va monter les murs. Les murs, ce qu'on appelle les vertus cardinales. Cardo, en latin, c'est le gond de la porte. Quand on ouvre une porte, la porte s'ouvre sur des gonds. Et c'est ce qui permet justement d'ouvrir notre âme à la grâce du bon Dieu. Quatre vertus cardinales: prudence, justice, force, tempérance. Correspond au mur de la maison. Et après, se rajoutent trois autres vertus qui forment le toit. S'il n'y a pas de toit, l'eau ne peut pas pénétrer dans la maison. Et dans ces trois vertus qu'on appelle les conseils évangéliques, les vertus de pauvreté, chasteté, obéissance. Et c'est avec l'association de ces 10 vertus, plus humilité comme base, foi, espérance, charité, prudence, justice, force, tempérance, pauvreté, chasteté, humilité, pauvreté, chasteté, obéissance, pardon, qu'on peut construire une vie spirituelle. Évidemment, le démon le sait tout ça. Et c'est pour ça qu'il nous empêche de pratiquer ces vertus. Sans la pratique de ces vertus, on ne peut pas rester et vivre en état de grâce. C'est absolument impossible. Donc la première chose à faire, et ça correspond à la vie purgative, c'est pratiquer ces vertus. Tout se posant sur l'humilité, encore une fois. Puis on peut passer à la deuxième étape. On peut monter en vie illuminative. Illuminare, ça veut dire recevoir la lumière. C'est l'évangile d'aujourd'hui. Une fois qu'on a bâti sur l'humilité, Dieu peut rentrer dans la maison. Mais si l'édifice de la vie spirituelle n'a pas été construit, Dieu ne peut pas rentrer, il attend. Et donc, il veut rentrer dans la maison, et une fois qu'il est dans la maison, qu'est-ce qu'il va faire, le bon Dieu? C'est l'évangile d'aujourd'hui. Il va ouvrir les oreilles de notre âme, et il va ouvrir la bouche de notre âme. Ces miracles que notre Seigneur Jésus-Christ fait représente souvent aussi des choses qu'il faut faire pour nous. On a des oreilles dans notre âme. On a des yeux dans notre âme. On a des bouches, une bouche dans notre âme. Eh bien, ici, on voit très bien que notre Seigneur Jésus-Christ va guérir un sourd muet. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre de la salive et il va oindre les oreilles et la langue de cette personne. Un geste que le prêtre fait aussi pendant le baptême. Et il va ouvrir les oreilles de ce sourd et faire parler le muet. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais ça veut dire que nous aussi, il faut que nous fassions très attention à ouvrir les oreilles de notre âme pour entendre le bon Dieu qui parle. Si je maintiens les oreilles de mon âme, spirituellement parlant, complètement fermées, comment voulez-vous que le bon Dieu se fasse entendre? Le bon Dieu ne va pas se mettre à hurler. Souvent, il murmure à notre âme. Il faut écouter. Il faut savoir écouter le bon Dieu qui peut nous parler par notre ange gardien, qui peut nous parler parfois directement, par des bonnes pensées qu'il met dans notre âme. Il peut nous donner des conseils aussi par l'intermédiaire d'un prêtre, par l'intermédiaire d'un bon ami qui peut nous aider à nous sortir d'une ornière dans laquelle nous nous sommes enfoncés. Et donc cette vie illuminative va commencer d'abord par ouvrir les oreilles de notre âme pour que nous puissions entendre les paroles du bon Dieu. C'est là où la vertu, le don surtout de conseil. Donc, conseil, c'est quoi? Savoir écouter justement le bon Dieu pour qu'il puisse nous conseiller. Et donc, conseil est absolument nécessaire, surtout aujourd'hui, pour pouvoir utiliser le don de force. Malheur à celui qui utilise la force sans utiliser le conseil. Avant de partir se battre, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut savoir comment on va se battre. Donc, il faut que le conseil alimente la force. Et ces deux dons sont des dons des Saint-Esprit qui vont être donc justement joint en quelque sorte pour que nous puissions écouter la parole du bon Dieu. Et on le voit très bien aujourd'hui, c'est la raison pour laquelle on a l'impression aujourd'hui que les gens sont devenus complètement sourds, ils n'écoutent même plus la parole du bon Dieu. On a parfois des gens qui vivent dans le péché jusqu'au cou et qui nous disent oh, ma conscience ne me reproche rien du tout. Pourquoi? Parce qu'ils ont fermé, ils ont oblitéré en quelque sorte les oreilles de leur âme, ils n'écoutent plus le bon Dieu. Et le bon Dieu travaille justement par les grâces actuelles. Il donne des grâces actuelles. Attention, les grâces actuelles sont acceptables même par quelqu'un qui vit dans le péché mortel. Parce que si je suis dans le péché mortel et que je veux pouvoir me confesser, j'ai besoin d'une grâce spéciale. Si je suis dans un tel péché mortel, je ne peux pas recevoir la grâce sanctifiante puisque je suis dans le péché. Il faut d'abord aller se confesser. Pour pouvoir me confesser, je vais avoir besoin d'ouvrir les oreilles de mon âme et d'accepter certaines grâces actuelles. Et quand parfois des gens me disent, voilà, monsieur l'abbé, je vis de telle et telle façon, je sais que pour vous, c'est je vis dans le péché, mais ma conscience ne me reproche rien. Je réponds toujours la même chose. Je ne crois pas un traître mot de ce que vous venez de me dire. Parce que votre conscience est là pour vous reprocher justement les choses. Alors qu'est-ce que fait le démon? Le démon, si vous voulez, obture en quelque sorte les oreilles de notre âme pour que nous ne puissions plus écouter les reproches du bon Dieu. Voilà pourquoi il va d'abord ouvrir les oreilles. Et ensuite, qu'est-ce qu'il fait? Il va oindre la langue avec sa salive, nous dit le texte sacré. Justement, pour ouvrir cette fois-ci la bouche et permettre à ce muet commencer à parler. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Qu'est-ce que représente le fait que le muet se met à parler? C'est-à-dire que le muet se met à prier. La prière, c'est le langage de l'âme. Rappelez-vous ces petits mots magiques qu'on apprend aux enfants, qu'on a tellement de mal à apprendre aux enfants. Bonjour, bonsoir, merci, s'il vous plaît, pardon, je vous aime. Ça, c'est les mots magiques, ça. Eh bien, une fois que le bon Dieu a ouvert les oreilles de notre âme pour que nous puissions entendre ses suggestions, une fois qu'il a rompu le lien qui empêchait notre bouche spirituelle de parler, à ce moment-là, le bon Dieu va nous apprendre à prononcer ces mots magiques. D'abord, bonjour. Ça veut dire quoi, bonjour? C'est la prière du matin. Savoir, tous les matins, dès qu'on se lève, au pied du lit, offrir sa journée au bon Dieu. Mon Dieu, je vous offre tout ce que je vais faire aujourd'hui. Mes prières, mes œuvres, mes difficultés, mes peines, mes maladies, tous les problèmes de la journée, je vous offre tout. Aidez-moi à rester en état de grâce pour la journée. On dit à notre Père, un jour, salut Marie, un gloire au Père. Au moins ça tous les matins. Après, savoir dire bonsoir, bon Dieu. Ça, c'est la prière du soir. au moins minimum faire l'acte de contrition, est-ce que j'ai offensé le bon Dieu aujourd'hui? Si je me rends compte que j'ai offensé le bon Dieu aujourd'hui, surtout de façon grave, prendre la résolution de se confesser immédiatement et finir par l'acte de contrition. Et même si je suis en état de péché mortel, rajouter à l'acte de contrition l'acte de charité, les deux ensemble se forment ce qu'on appelle un acte de contrition parfaite qui efface tous les péchés, même mortels. Puis, très important, savoir dire merci. Troisième petit mot magique. Savoir dire merci. Les gens ne savent plus dire merci aujourd'hui. Ils savent demander, mais ils ne savent même pas remercier le bon Dieu. Remercions le bon Dieu pour tout ce qu'il nous donne. Les choses que j'aime, les choses que j'aime pas. Parce qu'on suit le bon Dieu, qu'est-ce qu'il nous donne? Quel est le premier cadeau que nous fait le bon Dieu quand on le suit? Partie de sa croix. Ah, évidemment, parce que bon Dieu nous invite à goûter le bon vin à Cana en Galilée, tout le monde est là. Seulement quand il s'agit d'aller aider à notre Seigneur Jésus-Christ à porter la croix, alors là, il y a un peu moins de volontaires. Eh bien, justement, le bon Dieu nous apprend par sa grâce et grâce actuelle à dire merci au bon Dieu, même pour les croix. On ne va pas au ciel sans croix. On ne va pas au ciel en carrosse, on ne va pas au ciel en tapis roulant. Un chrétien, c'est quoi? Un chrétien, c'est quelqu'un qui porte la croix à notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, il y a deux façons de porter la croix à notre Seigneur Jésus-Christ. On peut la porter en râlant toute la journée, pas très efficace. Et puis, on peut porter la croix à notre Seigneur Jésus-Christ malgré les difficultés, malgré toutes les épreuves, par amour pour lui. Donc, savoir dire merci. Est-ce qu'on pense à remercier le bon Dieu pour le baptême? Est-ce qu'on pense à remercier le bon Dieu pour les confessions? Est-ce qu'on pense à remercier le bon Dieu pour la grâce de la messe, pour toutes les grâces que nous recevons tous les jours? Ensuite, autre petit mot très important, pardon. Savoir demander pardon. Mot qui est tellement important dans les ménages. Je dis souvent aux personnes que je prépare au mariage, mais n'oubliez pas qu'une fois que vous êtes marié, le mot, la phrase la plus importante, c'est pas « je t'aime » parce que ça c'est très facile à dire, c'est « je te demande pardon ». Quand un mari est capable de dire à son épouse « je te demande pardon », quand une épouse est capable de dire à son mari « je te demande pardon », le mariage tiendra. Le mariage commence à s'écrouler quand les épouses ne sont plus capables de se dire « demander pardon mutuellement ». C'est là où tout s'écroule. Donc il faut savoir demander pardon, mon Dieu. Donc, bonjour, bonsoir, merci. S'il vous plaît, aussi un mot très important. Il faut demander avec humilité au bon Dieu les grâces dont nous avons besoin. Et si on ne demande rien, rappelez-vous ce qu'a dit notre Seigneur Jésus-Christ. Demandez et vous recevrez. Frappez et on vous ouvrira. Cherchez et vous trouverez. Donc, il faut demander. Et qu'on a demandé ces grâces. Rappelez-vous l'aveugle sur le bord de la route qui entend arriver notre Seigneur Jésus-Christ et qui se lève et qui commence à crier « Seigneur, fils de David, ayez pitié de moi !» Et les gens le font dire « Chut, vous gênez le maître !»« Seigneur, fils de David, ayez pitié de moi !» Vous nous embêtez tout le monde. Seigneur, fils de David, ayez pitié de moi. Notre Seigneur va venir. Il va faire le miracle. Mais si l'aveugle n'avait pas demandé trois fois de suite la grâce du miracle, vous croyez qu'il aurait été guéri? Peut-être pas. Donc savoir demander. Et savoir dire au bon Dieu, dernier petit mot magique, savoir dire au bon Dieu, mon Dieu, je vous aime. Je vous demande pardon, mais je vous aime aussi. Alors c'est facile de dire au bon Dieu, mon Dieu, je vous aime quand tout va bien. Il faut savoir dire, bon, oh Dieu, mon Dieu, je vous aime aussi quand tout va mal. C'est ça la vie illuminative. La vie illuminative, c'est donc demander au bon Dieu d'ouvrir les oreilles de mon âme, d'ouvrir la bouche de mon âme pour que je puisse écouter les conseils qu'il me donne et puis que je puisse louer le bon Dieu. Le bon Dieu nous a donné une langue, c'est pas pour critiquer le voisin, le bon Dieu nous a donné une langue pour justement savoir le louer, savoir l'honorer, savoir le servir. Une fois qu'on a franchi ces deux premières étapes, on passe à la troisième étape. Troisième étape, c'est la vie mystique. On appelle l'étape, après la vie purgative, la purification, la vie illuminative pour recevoir les lumières du Saint-Esprit, l'étape mystique, la vie unitive. Ça, c'est représenté par la fête de la transsubstantiation, de la transfiguration. La fête magnifique du 6 août. Vous connaissez cette histoire magnifique. Notre Seigneur qui prend avec lui Saint-Pierre, Saint-Jacques et Saint-Jean, et qui monte au sommet du Tabor. Et là, il est transfiguré. Et on lui dit que son visage va devenir brillant comme le soleil. Ses vêtements vont devenir plus blancs que la neige. Et les apôtres, les trois apôtres qui sont là, Saint-Pierre, Saint-Jacques et Saint-Jean, tombent la face contre terre, complètement paniqués. Et puis le bon Dieu va leur dire, ne craignez pas. Ne craignez pas. Et là, Saint-Pierre va avoir cette phrase magnifique. Il est bon pour moi, pour nous, d'être ici. Ça représente la vie mystique. Une fois qu'on s'est purifié, une fois qu'on a reçu les lumières du Saint-Esprit, à ce moment-là, on peut se reposer dans le bon Dieu. C'est la vie mystique, c'est évidemment celle qu'on aura au ciel. S'il n'y a plus de vie purgative, hein. Il n'y a même plus de vie illuminative, il n'y a qu'une vie mystique, qu'une vie unitive. On est unis avec notre Seigneur, ce qu'on appelle le mariage spirituel. Et il faut, mes bien chers frères, apprendre à prononcer cette phrase magnifique. Mon Dieu, il est bon pour moi d'être ici. Quel dommage de voir tant de catholiques qui ne sont plus capables de dire ces choses-là. Et il faut apprendre justement à savoir remercier le bon Dieu. Et à savoir vraiment pouvoir dire, mon Dieu, il est bon pour nous d'être ici. Hier, j'ai rencontré un confrère d'ordination, il était ordonné en même temps que moi, il y a 42 ans, et qui est dans la fraternité Saint-Pédis encore. Et on a parlé, librement, et je lui ai dit, mais comment se fait-il qu'il n'y ait plus de vocation dans la fraternité Saint-Pédis? Vous avez de plus en plus de messes, de plus en plus d'écoles, de plus en plus de chapelles, et de moins en moins de vocations. Pourquoi? C'est ce qu'il m'a répondu. Internet. Internet qui empêche justement, qui empêche les gens de monter vers le bon Dieu. Mais expliquez, Internet maintient, si vous voulez, surtout le téléphone portable et tous ces trucs-là, maintient par le système des écrans, maintient les gens, les âmes, gluées, engluées, collées à la terre ici-bas. Ils n'arrivent pas à s'écrouler, ils n'arrivent pas à quitter la vie purgative. Ils n'ont plus de vocation. Donc, le problème aussi, quand on parle souvent avec... moi, j'avais ce gros problème quand j'étais moi-même près de la fraternité Saint-Pédis, avec ces jeunes qui, quand ils rentraient dans une église le dimanche pour la messe du dimanche, ils pensaient qu'il y a une seule chose, c'est sortir. Et puis, dès que je commençais à dépasser 5 minutes de sermon, ça arrive souvent, ils regardaient la montre comme ça. Ils étaient incapables de dire, Seigneur, il est bon pour nous d'être ici. Qu'est-ce qu'ils disaient au fond d'eux-mêmes? Oh mon Dieu, j'aimerais être partout sauf ici. Et vraiment, mon Dieu, la messe, hein, qu'est-ce que c'est rasoir? J'y suis parce qu'il faut, voilà, ben, parce que mes parents m'y obligent, parce qu'il y a un commandement, il n'y a pas idée d'avoir donné ce commandement, il paraît qu'il faut venir à la messe tous les dimanches, alors je suis là. C'est ça qui tue le catholicisme. Ils ont perdu, ces jeunes ont perdu l'amour du bon Dieu, ils ont perdu l'amour de la prière, ils ont perdu l'amour du désir de Dieu. Rappelez-vous, saint Thomas d'Aquin qui parle à sa sœur lui demande qu'est-ce qu'il faut pour aller au ciel, quelle est la première condition et réponse de saint Thomas d'Aquin, un grand désir du ciel. Comment voulez-vous que quelqu'un qui est incapable de passer une heure sans râler à la chapelle parce que la messe est trop longue, puisse passer une éternité au ciel? Qu'est-ce qu'il veut dire au ciel? Toute la journée au ciel en train de chanter du chant gaïorien, adorer notre Seigneur, quelle idée. Eh bien justement, il faut demander ce désir. Devenir des hommes de désir, devenir des femmes de désir, avoir ce grand, grand désir d'être un jour au ciel. Et le ciel, vous l'avez ici, mes bien chers frères. Quand on est ici le dimanche, c'est déjà une partie du ciel. Monsieur l'abbé, au ciel, j'espère qu'il n'y aura pas la vie de la vie de me donner les sermons qui en finissent plus. Rassurez-vous, c'est bon Dieu qui parlera. Mais avoir ce grand, grand désir pour justement avoir cette vie unitive. Savoir monter vers le bon Dieu. Et pouvoir dire, mon Dieu, il est bon pour nous d'être ici. Et vous soyez vraiment capable de dire ça. Il faudrait vraiment que nos fidèles, je sais que vous faites un effort pour cela, que les fidèles puissent vraiment dire du fond du cœur, mon Dieu, j'aime venir à la messe le dimanche. Malgré les difficultés, malgré les distances, malgré le coût du carburant et tout ça, j'aime venir à la messe ce dimanche parce que c'est là où je vais remplir mon âme de l'amour du bon Dieu. C'est ça qu'il faut demander. Il faut supplier au bon Dieu, mais bien chers frères, de vous donner cette grâce. Passez par la Sainte Vierge. Passez par la Sainte Vierge. Toutes ces grâces nous sont données par elle. C'est elle qui les donne, puisqu'elle est médiatrice de toutes les grâces. Elle est co-rédemptrice du genre humain. dans ces grâces dont nous avons besoin pour sortir de la vie purgative, rentrer en vie humiliative et même viser la vie unitive, c'est la très Sainte Vierge Marie qui les donne. Demain, c'est sa fête, encore une fois, la fête du cœur immaculé de Marie. Ce cœur immaculé de Marie qu'elle a présenté à Fatima dans des apparitions en 1917. Ce cœur immaculé de Marie qui est le moyen d'arriver au Sacré-Cœur. Au pied de la croix, qu'est-ce qu'on voit? On voit la Sainte Vierge. La Sainte Vierge est au pied de la croix, son cœur immaculé ouvert pour nous monter vers le cœur sacré de notre Seigneur Jésus-Christ, son divin Fils. Donc il y a un lien étroit entre le cœur immaculé de Marie et le cœur sacré de notre Seigneur Jésus-Christ broyé sur la croix. Donc il faut souvent prier, prononcer ces petites prières toutes simples. Cœur sacré de Jésus, broyé à cause de mes péchés, ayez pitié de moi. Cœur immaculé de Marie, ayez pitié de moi. Demandez à la très Sainte Vierge Marie de vous donner, mes bien chers frères, de nous donner à tous, et voilà pour moi aussi, de donner à tous un grand, grand désir du ciel. Il faut vraiment que vous puissiez quitter la chapelle le dimanche avec plus d'amour du bon Dieu que quand vous êtes rentré dans la chapelle. Si vous sortez de l'église après la messe ici, vous n'avez pas plus d'amour dans votre âme que vous n'en aviez lorsque vous êtes pénétré dans ce petit oratoire, il y a quelque chose qui manque, quelque chose qui ne va pas. Donc demandez un grand, grand amour du bon Dieu. Et l'amour du bon Dieu, c'est aussi l'amour de la croix, attention. Donc demandons toutes ces grâces dont je vous ai parlé, ces grâces de l'humilité, de la foi, de l'espérance, de la charité, des vertus cardinales, de prudence, de justice, de force, de tempérance, puis le toit de la maison, à savoir la pauvreté, la chasteté, l'obéissance. Demandons toutes ces grâces pour pouvoir nous rapprocher de notre Seigneur Jésus-Christ, notre Sainte Vierge Marie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.